la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, Benoît Peters explore l'histoire de la bande dessinée à partir des collections de la BNF. Première partie, de Topfer à Bécassine.
Bonsoir, merci d'être venu, merci de plonger avec moi dans les coulisses anciennes de la bande dessinée, puisque c'est essentiellement du 19e siècle et des premières années du 20e siècle que nous allons parler aujourd'hui de manière assez détaillée. Et la semaine prochaine, il me faudra avoir un rythme un peu plus accéléré pour couvrir le riche 20e siècle et un tout petit peu du 21e siècle à coup de grandes tendances. Mais longtemps, on n'a pas cru qu'il existait une bande dessinée aussi riche et diverse au 19e siècle. Alors, il y a eu plusieurs tendances. Il y avait des gens qui faisaient remonter autrefois la bande dessinée jusqu'à la grotte de Lascaux, ou la colonne Trajan, la tapisserie de Bayeux. D'autres qui la faisaient démarrer à la fin du 19e siècle aux États-Unis avec le Yellow Kid, à peu près en même temps que la naissance du cinéma. Et puis un historien américain a fait un travail très sérieux, très solide, une histoire de la bande dessinée, mais elle s'est arrêtée pour l'instant au volume 2. Il aurait fallu pas mal de volumes pour tout couvrir. Et assez étrangement, lui consacre son premier volume essentiellement à la période médiévale et le deuxième volume au 19e siècle. Je reviendrai dans quelques instants sur ce point. Plus récemment, Thierry Smolderen, qui avait travaillé très activement à un site à Angoulême, exhumant beaucoup de raretés, le site Coconino World, Coconino étant le lieu où se passe la bande dessinée de Herriman Crazy Cat. Thierry Smolderen, lui, a fait démarrer la bande dessinée au XVIIIe siècle avec William Hogarth et ses séries de gravures, auxquelles Topfer, dont je vais parler, se réfère souvent. Plus récemment, un gros volume est paru, c'était une forme de légitimation chez Citadel et Masno, j'ai eu le plaisir d'y participer. L'art de la bande dessinée, c'est l'art, mais c'est aussi largement l'histoire de la bande dessinée. Et là, on se rapproche un petit peu des tendances que je développerai moi-même, c'est-à-dire faisant, au fond, coïncider la naissance de la bande dessinée avec le développement de l'imprimé, de la presse illustrée, et voyant, bien sûr, la bande dessinée n'est pas une invention comme peut en avoir été une le daguerréotype ou même le cinéma. La bande dessinée n'est pas une invention technologique, mais il n'empêche que nous allons essayer de voir pourquoi on peut la faire remonter à peu près aux années 1830. Ce qui est frappant dans les travaux historiques récents, c'est qu'on a privilégié de plus en plus le support. Au fond, on s'intéressait pendant longtemps aux grands héros, aux grandes figures de la bande dessinée, âge d'or, différents selon les uns et les autres. Puis on s'est intéressé aux auteurs, avec énormément de monographies, genre auxquelles j'ai moi-même contribué. Vous savez que la bibliographie, notamment sur Hergé, est absolument colossale. Mais de plus en plus, on se pose la question des supports de la bande dessinée, et notamment du support album, des supports presse. Et là, deux ouvrages de Sylvain Lesage se sont intéressés à ces aspects et ces évolutions. Le deuxième ouvrage, L'effet livre, sort ces jours-ci, je ne l'ai pas encore lu. La bande dessinée a désormais en France son musée depuis un certain nombre d'années. Il est à Angoulême. Et dans ses anciens chais, il y a une présentation qui, là aussi, insiste beaucoup sur les supports, retrouvant les livres anciens, les journaux anciens, le contexte de publication et pas simplement ce que les rééditions ont permis de découvrir. Et ça a été, je dois dire, pour moi, qui était un peu un enfant de la bande dessinée belge, quelque part entre Spirou, Tintin, puis Pilote, et puis la bande dessinée moderne apparue dans les années 1970-80, plus je me suis intéressé à la bande dessinée, plus j'ai vu la richesse de son histoire antérieure, de tout un pan oublié. Et pourquoi était-il oublié? Eh bien, essentiellement parce que ce pan de cette histoire n'avait pas connu les honneurs du livre. Et c'est donc une double histoire qu'il convient de raconter pour approcher la bande dessinée. Bien sûr, celle de ces grandes œuvres qui ont été éditées en livres et régulièrement rééditées et qui ont eu une persistance, une permanence. On parlera tout à l'heure des albums de Christophe, dont vous vous souvenez tous, des albums de Bécassine et de bien d'autres, qui sont des livres qui, dans les bibliothèques familiales, plus ou moins craqués, plus ou moins abîmés, parfois coloriés par les enfants, se maintenaient. Alors que la presse, qui avait été pendant longtemps le support principal, eh bien, elle avait disparu, n'avait pas été conservée. En plus, beaucoup des journaux qui publiaient de la bande dessinée étaient d'assez grand format, sur un papier fragile, et donc il fallait un travail d'exhumation. Ce travail a notamment été réalisé sur un site tout à fait remarquable qui s'appelle Topferiana, qui est animé essentiellement par Antoine Sauvert, mais avec des contributions diverses, et qui recueille un certain nombre de choses et qui notamment s'intéresse à des journaux qui ont été numérisés, mais qui parfois avaient été numérisés pour d'autres raisons que la bande dessinée. On les numérisait en tant que support d'information, en tant que support historique, et au fond, les bandes dessinées, ben, elles étaient là, comme ça. Et puis, petit à petit, on s'est mis à s'y intéresser davantage, à repérer les noms des auteurs, les retours d'un certain nombre d'auteurs, les dispositifs de page, les techniques d'impression, et tout cela a considérablement enrichi notre perception de la bande dessinée, notamment de la bande dessinée francophone, qu'on faisait finalement naître assez tard. Sur ce site Topferiana, vous trouverez, si vous avez envie de plonger plus loin, plus avant, in extenso, une thèse de Camille Fillot, la bande dessinée au siècle de Rodolphe Töpffer, qui va s'intéresser beaucoup à la problématique que je développe. Mais alors, dans cette thèse, évidemment, c'est développé de manière très pointue et très précise sur les livres de bande dessinée au 19e et la présence à travers des journaux spécialisés ou non spécialisés. Cette thèse est donc intégralement lisible en ligne. Gallica, travail de numérisation de la BNF, dont on peut se féliciter tous les jours, pendant longtemps numérisait davantage du texte que de l'image, ou quand l'image était numérisée, ne l'indexait pas forcément. Et c'est peu à peu, je crois, dans un mouvement peut-être lié à un site comme Topferiana, ou peut-être lié aux travaux d'un certain nombre de spécialistes et d'écrivains, qu'on a commencé à regrouper, isoler, et même parfois sortir de leur catégorie des œuvres qui étaient rangées comme de l'illustration, comme de la caricature, comme du livre pour enfants, et dont on s'aperçoit qu'elles sont partie intégrante de l'histoire de la bande dessinée. Un autre phénomène qui a joué dans cette redécouverte, c'est que des auteurs un peu partout, mais particulièrement aux États-Unis, et un auteur aussi essentiel que Art Spiegelman, le créateur de Maus, inventeur, on peut le dire, ou quasi-inventeur, ou en tout cas promoteur du roman graphique et auteur de ce chef-d'œuvre incontesté que même ceux qui n'aiment pas la bande dessinée généralement reconnaissent comme une œuvre importante. Eh bien, Art Spiegelman, dans sa série « À l'ombre des tours mortes », publiée « In the Shadow of No Towers », publiée peu après le 11 septembre, raconte que dans le cauchemar qu'il était en train de vivre à New York, vivant lui-même tout près des Twin Towers, dans ce cauchemar, certains cherchaient leur salut dans la religion, d'autres dans la philosophie, d'autres dans la poésie, mais que lui, c'était à ces bandes dessinées anciennes, nées à New York, qu'il trouvait son refuge, et c'était comme si les fantômes de ces personnages du début du XXe siècle étaient réapparus à travers ces pages, ces grandes pages, d'ailleurs au même format à peu près que celles de Winsor McCay, de Lionel Feininger et quelques autres. Il y avait donc là l'idée que l'histoire de la bande dessinée n'était pas qu'une affaire de spécialistes et d'érudits, de thésards, mais que cette histoire de la bande dessinée pouvait être revivifiée par un regard contemporain. Et c'est aussi ce qu'a fait notre génial contemporain Chris Ware, en travaillant à côté de ses propres œuvres à des rééditions remarquables de Crazy Cat de Harry Mann ou à la série Walt and Skizix de Frank King, Gasoline Alley, tout récemment traduite et éditée en album, pour la première fois en français, un très bel album que je vous recommande et qui nous révèle tardivement, parce que ça n'avait jamais existé sous forme de livre, un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée. Reprenons donc les choses au début, maintenant entrons davantage dans cette matière, et pour Thierry Grunstein, éminent spécialiste de la bande dessinée, d'accord en cela avec moi-même, puisque nous avions travaillé il y a longtemps à l'exhumation des écrits de Töpffer sur la bande dessinée, eh bien, il y a bien l'idée qu'un moment Töpffer a été quelque chose de déterminant, même si, comme je l'ai déjà dit et je le redis, il n'y a pas une date d'invention absolue pour la bande dessinée. Mais il y a peut-être, avec Töpffer, et notamment avec les textes de Töpffer qui existaient dans ce volume des éditions Hermann, aujourd'hui épuisé, et tous les textes de Töpffer sont repris dans le livre plus récent et plus complet de Thierry Grunstein, Monsieur Töpffer invente la bande dessinée. Il y a quelque chose chez Töpffer, par-delà son talent, par-delà la drôlerie, la richesse, l'invention, de quelque chose de spécifique à travers ces histoires en images, il y a chez Töpffer une conscience d'avoir inventé quelque chose de neuf. Il y a la conscience d'un genre et l'envie de le promouvoir, l'envie de le développer, l'envie somme toute d'être imité ou prolongé. Et ça, c'est un geste qui semble extrêmement important. Pourtant, cette histoire démarre il y a deux siècles de manière un peu mélancolique. Nous avions ici Töpffer peint en 1821, je crois. Il a été, non loin d'ici, lui, le Genevois de cœur et de naissance, fils d'un peintre, il a été étudiant aux Beaux-Arts à Paris, et il rêvait, comme son père, Adam Töpffer, de devenir peintre. Et c'est à Paris, essuyant quelques difficultés, quelques maux de tête, quelques difficultés de vue, qu'il se rend compte qu'il est atteint d'une maladie des yeux, peut-être à l'origine un peu moins grave qu'il ne l'a cru, mais qui, semble-t-il, ou en tout cas fantasmatiquement, lui interdisait d'embrasser la carrière de peintre. Il n'avait pas une vue assez fine, assez précise, il ne serait jamais un grand peintre. Nous voyons ici, dans cet autoportrait très célèbre de Töpffer, les lunettes qui protège ses yeux, il voyait apparaître régulièrement des taches, des filoches, dit-il, des têtards qui lui passaient devant les yeux et brouillaient sa vue et le fatiguaient. Et Töpffer, en 1820, donc, l'année de la bande dessinée de 2020, pourrait marquer quasi deux siècles de bande dessinée, plus qu'un siècle, comme on le dit parfois, Töpffer, dans un premier temps, est désespéré. C'est la fin de tous ses rêves, c'est la fin du projet qui était le sien. Mais il se rend compte assez tôt qu'il a quelques morceaux de talent. S'il ne peut pas peindre ou s'il pense ne pas pouvoir peindre, il sait encore dessiner et surtout caricaturer, mettre au point un dessin assez sauvage. Et puis il sait raconter et il écrit. Et puis il sait communiquer, il a pratiqué le théâtre. Il va ouvrir avec la jeune femme qu'il épouse, Kitty, près de Genève, un petit pensionnat. Et dans ce petit pensionnat, lui qui est autant passionné par Rousseau que par Molière et Stern, l'auteur de Tristram Shandy, il développe une pédagogie active, une pédagogie forte. Il emmène ses élèves l'été découvrir les Alpes. Il raconte leur voyage au retour et il les raconte en mêlant textes et dessins, sous forme manuscrite. Et puis, c'est émaillé d'humour, ça plaît, et il se lance bientôt, dit-il, pour égayer les longues soirées d'hiver, dans des récits qui ne sont destinés qu'à ses collègues, ses amis et ses élèves favoris. Ce sont des histoires drôlatiques. Les amours de Monsieur Vieuxbois est probablement la toute première qui a été tracée. Je n'ai donc qu'un succès minuscule, puisque ces histoires, sur deux bandes, nous verrons que les histoires ultérieures de Töpffer ne se font que sur une seule bande, ces histoires sur deux bandes existent dans un cahier, à un seul exemplaire. Il se trouve qu'un des amis proches de Töpffer, Frédéric Sauret, est un ami de Goethe. Goethe, à Weimar, sent qu'il est tout à la fin de sa vie, il est d'humeur morose, atteint par diverses maladies, et Frédéric Sauret a l'idée d'apporter les cahiers que Töpffer lui prête, les originaux, pour les lui faire lire. Et Goethe s'enthousiasme, et donc il est, on peut s'en enorgueillir, le premier critique de l'histoire de la bande dessinée. Il voit là quelque chose de neuf, et il dit, c'est vraiment trop drôle, trop fort, trop neuf, il faut absolument encourager Töpffer à le publier. Et donc Töpffer va reprendre ces histoires, les redessiner un peu plus soigneusement, et paraît en 1833, ce qu'on peut considérer comme le premier album de bande dessinée, Monsieur Jabot, et nous voici donc au cœur de notre histoire, en tout cas de l'histoire que j'essaie de vous raconter, puisque c'est sous forme de livre, d'album, un petit album oblong, noir et blanc bien sûr, imprimé sur une seule face, c'est sous forme de livre que naît la bande dessinée. Et ce n'est pas un livre spécifiquement destiné aux enfants, parce que c'est l'autre grand battement que nous allons évoquer à travers ces deux conférences. La bande dessinée entre la presse et le livre, la bande dessinée entre l'enfance et l'âge adulte. Töpffer, par son humour, ses décalages, s'adresse plutôt à un public adulte, même si les histoires peuvent être lues par tout un chacun. Voici donc le début du livre, et une des originalités qui va frapper Goethe dès la première lecture, dès la lecture sur manuscrit, une originalité que nous n'arrivons presque plus à percevoir, c'est qu'il s'agit d'un seul et même personnage qui à la fois revient et se transforme tout au long de l'histoire. Il faut admirer, dit Goethe, que je cite de mémoire et en français, il faut admirer la manière dont un fantôme comme Monsieur Jabot reproduit son identité impossible de dessin en dessin. C'est une idée qu'il faut bien comprendre, il ne s'agit pas simplement d'un enchaînement de dessins ou d'une série de dessins qui seraient reliés par un thème, par exemple, mais véritablement d'un personnage qui se décline suivant une idée que Töpffer évoquera souvent, lui qui était passionné par la physiognomonie, et cette idée, c'est celle des traits permanents et des traits non permanents qui définissent un personnage. Les traits permanents pour qu'il soit bien lui-même tout au long de l'histoire et qu'on le reconnaisse, problème que certaines bandes dessinées peuvent encore rencontrer aujourd'hui, mais aussi qu'il soit suffisamment expressif pour faire vivre l'histoire. Donc voici les premières lignes, la micro-préface, ci derrière commence l'histoire véritable de Monsieur Jabot, et comme quoi, rien que par ses manières comme il faut et sa bonne tenue, il sut réussir dans le monde. Va, petit livre, et choisis ton monde, car aux choses folles, qui ne rit pas, bâille, qui ne se livre pas, résiste, qui raisonne, se méprend, et qui veut rester grave, en est maître. Autographié chez J. Freydig, Genève, 1833. L'autographie, la technique utilisée par Töpffer, est un dérivé de la lithographie, mais c'est un dérivé extrêmement simple. C'est un dérivé qui servait pour reproduire des affichettes, des invitations, ou souvent pour réaliser des factures et des imprimés officiels. Mais Töpffer réalise un avantage extraordinaire qui est qu'avec la technique de lithographie, on peut, sur une feuille de papier, avec une plume, utiliser le même instrument pour tracer le texte et tracer les dessins. C'est un phénomène extrêmement important parce que cette unité, qui n'est pas qu'une unité sémantique, mais qui est aussi une unité plastique, est au cœur de toute l'invention töpfferienne. Alors vous me direz, certains ont dit, oui mais je ne vois pas ici de bulles, je ne vois pas de phylactères. Et donc, dans une époque pas si lointaine, on pensait que sans phylactères, pas de bande dessinée. Il se trouve, et c'est peut-être une des choses qui rend la réflexion sur l'histoire du médium importante, il se trouve que la bande dessinée des 30 dernières années a réinvesti des formes comme le récit muet ou l'usage d'un texte hors des phylactères, a réinvesti des formes qui font d'elles, très souvent, consciemment ou inconsciemment, l'apparente de ces bandes dessinées dites primitives. Et on s'aperçoit que le phylactère traverse la bande dessinée au 19e. Il était d'ailleurs connu de Töpffer. Son père, dans certaines de ses caricatures, avait utilisé le phylactère. Mais Baudelaire, parlant à un moment de Granville avec un petit peu de dédain, dit il utilise le vieux, c'est un esprit incorrigiblement littéraire, il utilise d'ailleurs le vieux procédé du phylactère. Il faut donc bien se représenter ces choses, que ces formes qui naissent dans l'histoire de la bande dessinée, quand elles ont recours au phylactère, vont le faire d'une manière neuve, vont choisir de le faire, mais que ce n'est en aucun cas par ignorance de cette réalité qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous voyons, j'espère que vous voyez, dans cette page tout à fait remarquable de M. Jabot, le premier rêve de l'histoire de la bande dessinée, nous voyons la capacité à représenter non seulement la musique, donc, puisque Monsieur Jabot commence par entendre un air, mais à représenter une histoire à l'intérieur de l'histoire. Il y a donc deux Monsieur Jabot dans cette planche. Et c'est tout à fait touchant et fascinant, quand on observe les inventions de Töpffer, de se dire qu'il n'avait à cet égard pas de modèle, qu'il n'y avait rien qui le précédait, qu'il s'amusait, qu'il jouait et qu'il cherchait. Et vous voyez, par exemple, dans cette image de M. Crépin, la manière dont l'affiche fait partie pleinement du dessin, mais en même temps fait partie pleinement de la narration. Le texte peut s'intégrer de différentes manières. On est là, on pourrait dire, dans une écriture assez proche de celle d'un Jacques Tardy qui s'intéressera toujours aux journaux, aux vitrines de magasins, aux affiches, aux inscriptions sous toutes leurs formes qui figurent à l'intérieur de l'image. Histoire après histoire, Töpffer cherche de nouvelles manières de raconter. Bien sûr, il veut d'abord faire rire. Il propose ici, dans le Docteur Festus, une parodie du Faust de Goethe, un admirateur décédé depuis, mais il joue avec le picaresque, il joue même avec le récit d'anticipation, puisque dans l'histoire dont je vous montre ici un extrait, nous avons un premier exemple de ce qu'on pourrait appeler improprement le montage parallèle, montage entre deux séquences, en même temps qu'une scène d'anticipation, un homme est tombé, si mes souvenirs sont bons, d'un ballon. On le recueille comme s'il était un extraterrestre. On l'enferme dans une cage et un scientifique sérieux note tous les comportements de ce malheureux comme autant de caractéristiques des mœurs des extraterrestres. Et vous voyez donc que, par exemple, ce procédé proche du montage parallèle, alternance vraiment régulière des deux systèmes, ce procédé n'a pas du tout été inventé par la technologie du cinéma, mais est une manière de raconter l'histoire que la bande dessinée pouvait mettre en œuvre dès ses débuts. Et très souvent, on a tendance à croire que la bande dessinée a imité les procédés du cinéma, il lui est arrivé de le faire, mais les contre-exemples sont innombrables. Ce qui est intéressant chez Töpffer, l'une des choses intéressantes, c'est son prosélytisme. Et cela apparaît notamment dans une lettre à son cousin Jacques-Julien Dubochet, qui était éditeur à Paris, qui va jouer un rôle très important. Et Töpffer lui écrit ceci en 1841. « L'on peut, l'on doit viser à faire des livres plutôt que des séries de dessins, quelque amusant qu'ils soient. J'entends des livres en figure. » Figure, c'est le personnage, c'est Monsieur Crépin, Monsieur Jabot. « Ce qui fait un livre, c'est la pensée suivie, soutenue, développée. » On n'est donc pas du tout dans l'idée du gag isolé, de la pirouette, de la page. On est dans une continuité et il est très amusant pour nous de voir cette formule visée à faire des livres plutôt que des séries de dessins. Il y a donc l'idée qu'une véritable continuité peut s'établir, qu'un récit peut être construit. Ici, je vous montre très sommairement la liste des histoires réalisé par Töpffer pendant sa courte vie, puisqu'il mourra en 1846, lui qui était né en 1799. Donc une vie assez courte, des histoires qui ont généralement connu une première version pour les familiers, à l'exception de l'histoire d'Albert qui est mise au net presque immédiatement après avoir été conçue. Donc la date que je choisis, moi, et que plusieurs choisissent, c'est la date du premier album publié, pas du premier manuscrit. J'évoquais Töpffer théoricien, Töpffer conscient de son art, et c'est donc avec ce petit livre qui lui-même prend la forme d'une bande dessinée, puisque c'est un texte écrit, là le texte est dominant, agrémenté d'un certain nombre de croquis, c'est là que Töpffer va poser les grands principes de ce qui ne s'appelle pas la bande dessinée, de ce qui est pour lui la littérature en estampe, et qui tient à la solidarité fondamentale de la narration visuelle et de la narration écrite, inséparable, suivant la définition très connue et que je vous épargne de son récit Monsieur Jabot, que propose immédiatement Töpffer. Mais ce qui va être amusant, c'est que le cousin de Töpffer, qui diffuse un peu les albums à Paris, puisque les albums au départ circulent à Genève, un petit tirage, ils sont assez chers, il y a l'idée que si ça a marché sous forme de livre, au fond, pourquoi cela ne marcherait-il pas dans la presse? Et donc, voici l'éditorial du premier numéro de l'Illustration, l'Illustration qui est l'écho d'un certain nombre de publications anglaises, mais qui nous dit ici pourquoi donc cette association si heureuse du dessin avec les signes ordinaires du langage ne s'étendrait-elle pas hors des bornes dans lesquelles elle s'est contenue jusqu'ici? Pourquoi ne ferait-elle pas irruption hors des livres? Tout à fait amusant, puisqu'on pourrait penser, et je pense que c'est une idée un peu traditionnelle ou une idée reçue, que la bande dessinée naît dans le livre et qu'ayant atteint un certain succès, elle va exister ensuite sous forme de livre. Or, ici, on voit Dubochet formuler la chose à l'inverse. Puisque le livre existe, pourquoi ne pas l'étendre à la presse? Et alors que le pauvre Töpffer est déjà très malade, que là, sa maladie des yeux est devenue très grave, et en plus qu'un cancer des voies digestives précipite le pauvre Töpffer vers la mort, il lui dit « mais il faudrait qu'on reprenne une de tes histoires ». Alors on choisit Monsieur Cryptogame, mais Töpffer n'a pas la force de le redessiner, et en plus le redessiner suppose une technique neuve pour la manière d'imprimer un journal à grand tirage. On va donc faire appel à un autre dessinateur qui connaît très bien le travail de Töpffer, on verra pourquoi, Cam, Monsieur Amédée de Noé, dit Cam, qui va s'appliquer à reprendre le travail de Töpffer, à le redessiner avec plus de corrections. Et la première réflexion qu'on a envie de se faire, c'est qu'on se trouve là avec quelque chose qui, par superposition, ressemble plus à une page de bande dessinée que les bandes continues de Töpffer. Mais si vous regardez bien, vous verrez que par rapport au travail de Töpffer, il s'agit toujours d'une bande, simplement on a découpé les bandes et on les a superposées. Il n'y a pas de pensée réelle de la page, même s'il y a des accidents heureux, comme ici, la manière dont la page se conclut par un plan beaucoup plus large. Le travail va connaître une mutation fondamentale, une mutation technologique fondamentale, c'est qu'on passe par la gravure. En passant par la gravure, la première chose qu'on peut noter, qui est peut-être plus flagrante ici, dans la deuxième bande d'images, c'est qu'il y a une inversion. Cam ne s'est pas rendu compte qu'en gravant, il allait modifier la position des personnages et souvent le mouvement de leurs actions, alors que Töpffer, précurseur d'Hergé et quelques autres à ce point de vue-là, Töpffer très naturellement s'arrangeait pour que le mouvement des personnages épouse celui de la lecture et donc qu'on se dirige grosso modo de gauche à droite en continuité. Cam veut aussi rendre le dessin de Töpffer plus exact, on pourrait dire plus académique, ce qui va lui ajouter de la correction, mais lui enlever pas mal de drôleries. Il y a des loufoqueries qui ne passe plus. Toujours est-il que c'est la première bande dessinée grand public, c'est la première bande dessinée qui va conquérir un très large public, puisque jusque-là, on parlait plutôt en centaines d'exemplaires qu'en milliers de lecteurs. Et peu avant la mort de Töpffer, Dubochet, toujours lui, lui dit « Vous avez créé le genre et vous n'avez pas encore vu le dernier de vos imitateurs. » Et effectivement, il va y avoir une mémoire töpfferienne tout au long du XIXe siècle, une mémoire longtemps occultée et qui touche jusqu'au monde anglo-saxon et jusqu'aux États-Unis, puisque l'une des histoires de Töpffer se trouve traduite, adaptée, les mêmes formats oblongs, et va longtemps circuler aux États-Unis. Il y aura également une version néerlandaise et peut-être quelques autres versions, plus ou moins dérivées, mais qui, peut-être, de génération en génération, prépareront ce qu'on peut appeler la seconde naissance de la bande dessinée aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. En attendant, en France, il y a une effervescence autour de cette possibilité, surtout du livre en images. Il y a particulièrement la librairie Aubert, qui est située, si mes souvenirs sont bons, Galerie des Panoramas, en tout cas à deux pas d'ici, passage des Panoramas, vraiment à deux pas d'ici. On est dans le quartier où se développe la caricature et l'estampe, et la maison Aubert est animée par M. Aubert, bien sûr, Gabriel Aubert, mais aussi par Charles Philippon, qui n'est pas seulement éditeur, mais qui est l'un des artisans majeurs de la diffusion de la caricature et de l'image populaire, et l'immortel auteur de la séquence des poires, 1831, qui lui vaut la prison, retravaillée par Daumier, cette planche servira à payer un certain nombre de frais, de l'amende. Mais on peut considérer que le travail de Philippon, quasi contemporain de celui de Töpffer, était lui aussi cette mise en séquence dynamique d'une caricature. L'idée au fond qu'une caricature n'était pas forcément une image unique, mais que c'était non seulement une image reproductible, mais une image séquentielle, une image narrative. Et tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire politique du XIXe siècle ou à l'histoire des images au XIXe siècle savent à quel point la poire, sous toutes ses formes, fût-ce une poire de mots, servira de désignation parodique, non seulement par rapport au pauvre Louis-Philippe, qui avait prétendu donner la liberté de la presse, mais l'avait un peu restreinte, mais que jusqu'à l'époque de la Troisième République, et à Monsieur Thiers, on retrouvera la poire pour tout pouvoir abusif. Alors, dans cette maison Aubert, on va proposer des albums, des petits albums de même format, et il se trouve qu'on a contrefait, sans beaucoup de scrupules, qu'on a piraté les albums de Töpffer. Ils ont été redessinés. C'est assez amusant, puisque dans la liste des albums Jabot, tel est le titre de la collection, on ne cite pas le nom de Töpffer, mais par contre, on va citer le nom de Cam. À d'autres moments, on citera le nom de Gustave Doré. Donc, les imitateurs ont droit à leur nom. Et c'est très probablement Cam qui était l'auteur des premières contrefaçons que Töpffer n'avait que modérément appréciées. Camille Fillot, dans sa thèse, a rassemblé les couvertures d'un certain nombre de ses ouvrages parus au XIXe siècle, d'albums à la Jabot, et on s'aperçoit donc que ce premier format de la bande dessinée est bien un format qui repose la plupart du temps sur une seule bande d'images et sur une horizontalité. Voici donc Cam, un auteur qui n'a probablement pas le talent, l'intelligence, la subtilité de Töpffer, mais qui mérite quand même d'être assez largement redécouvert. Et c'est David Kunzel, l'historien que j'évoquais, qui lui a récemment consacré une étude rassemblant à peu près toutes les bandes dessinées de Cam, qui a été le caricaturiste le plus prolifique de cette partie du XIXe siècle. Et parmi les très très nombreuses caricatures de Cam, beaucoup prennent une forme qui s'apparente à la bande dessinée. Inutile de vous dire qu'un homme qui décrit les aventures de Monsieur Jobard, a lu d'assez près, peut-être même d'un peu trop près, celle de M. Jabot. Il commence d'ailleurs par faire une publicité pour son propre éditeur, puisque c'est à la vitrine des éditions Aubert que M. Jobard découvre une histoire qui lui est consacrée et qu'il s'empresse d'acheter, ce qui fait de lui, dit Cam, un parfait Jobard. Il y a de l'invention indiscutable, mais il y a des choses qui distinguent très rapidement le travail de Cam de celui de Töpffer. Bon, bien sûr, ici, il va accueillir du dessin d'enfant, chef-d'œuvre du jeune monsieur Gogo, mais vous remarquez, par exemple, la rigidité des cases, la manière de tracer les bords de cases, et la rigidité aussi dans la manière de séparer le texte de l'image. Chez Töpffer, le texte peut toujours y entrer, s'y insinuer, et l'écriture est beaucoup plus libre. Il y a d'ailleurs chez Cam, qui est un grand admirateur de Laurent Sterne et de Tristram Shandy, une envie littéraire. Ici, nous avons une page qui multiplie volontairement les chapitres. Et donc, on ne représente, somme toute, pas vraiment ce qui se passe. On le raconte avec des images dont le lien avec le texte relève souvent du jeu de mots. Donc ici, un autre de ses albums, deux vieilles filles vaccinées à marier. L'humour de Cam est un peu plus lourd et a davantage vieilli que celui de Töpffer. Voici donc une page qui épargne peut-être au dessinateur une corvée. Nous avons la description d'un repas. Ces dames arrivèrent à temps pour trouver le dîner tout prêt. Et puis, image 2, ces dames se trouvant à table, je craindrais de les faire voir au lecteur de peur de les déranger. Et donc, case blanche. Si nous ne lisons pas, évidemment, nous avons simplement un monochrome. Mais en matière de monochrome, Cam est virtuose. Et donc, Monsieur la jaunisse ayant éteint sa chandelle regagne son lit dans la plus complète obscurité. Monsieur la jaunisse n'y comprend rien. Il n'a pas d'oreiller ni couverture et ses matelas sont durs comme des banquettes de coucou, je ne sais pas. Voilà, donc ne faisons pas non plus de Cam prématurément le Malevitch de l'histoire de la bande dessinée. Ce serait peut-être excessif. Mais en tout cas, il va pratiquer pendant une longue période, la littérature en estampe, la narration dessinée dans les journaux, en même temps que dans les livres, avec de vraies séquences. Ce n'est pas ici une addition de dessins, il s'agit bien d'une narration qui se poursuit, parce qu'on a beaucoup dans le XIXe siècle de pêle-mêle de caricatures qui rassemblent des images qui ne sont liées que par un vague thème. Ce n'est pas le cas ici. Il va réaliser des adaptations express de Hugo et des Misérables, résumant en une page toute une partie du roman, et il le fait dans le journal Amusant à plusieurs reprises, donc probablement les premières adaptations littéraires que nous trouvons ici sous forme particulièrement synthétique. Parmi les autres auteurs de la bande dessinée naissante et émergente, on sait qu'il y a Gustave Doré, et Gustave Doré tout jeune, hein, Gustave Doré avant son grand œuvre gravée, avant son œuvre controversée de peintre, dès l'âge de 12 ou 13 ans, va se présenter chez Philippon, montrer ses dessins et impressionner à ce point qu'il devient professionnel à 14 ou 15 ans, publiant donc plusieurs petits albums qui repose davantage que ceux de Töpffer sur la logique du texte, mais qui, malgré tout, utilise assez habilement les codes töpfériens. Donc, les travaux d'Hercule, dont voici quelques pages, on ironise beaucoup sur la peinture. Cette bande dessinée naissante montre un peintre et se moque un peu du peintre en question. Et comme chez Cam, on ne recule pas devant les jeux formels, puisqu'ici, voici une page qui a été souillé par un promeneur qui a tout bonnement marché sur la page. L'album le plus fameux de Doré en matière de bande dessinée, c'est son Histoire de la Sainte-Russie. Là, la référence sternienne est évidente à nouveau. Et donc, c'est le texte qui nous permet de comprendre. Bon, l'origine de l'histoire de Russie se perd dans les ténèbres de l'Antiquité. Ce n'est que vers le IVe siècle qu'elle commence à se dessiner. Donc, vous voyez, le dessin est à peine esquissé, etc. Et la page suivante, il y a des épisodes qui paraissent assez ennuyeux dans ces profondeurs de l'histoire russe. Et donc, l'encrier se répand dessus. Presque chaque page, et là on est dans le format vertical dans l'histoire de la Sainte Russie, presque chaque page se caractérise par une petite invention. Doré n'aime pas répéter les mêmes effets, et quelquefois ces inventions sont tout à fait prodigieuses et remarquables, comme dans cette page quasi abstraite, mais qui réussit véritablement à faire fonctionner synthétiquement toutes les images. Il ne s'agit pas d'une addition, mais vraiment d'une synthèse. On peut dire que l'effet tableau, qui sera si important dans la bande dessinée américaine du début du XXe siècle, l'effet tableau est en train de s'inventer ici. Autre figure qu'on n'associe pas toujours à la bande dessinée, c'est celle de Nadar. Nadar, écrivain, journaliste dans la petite presse, précurseur de l'aviation, aventurier en ballon, auteur du fameux Panthéon Nadar, et ça c'est l'immense lithographie du Panthéon Nadar où Nadar se représente. Mais Nadar, avant de devenir l'immense photographe que l'on sait, réalisera la première bande dessinée politique française, La vie publique et privée de Monsieur Réac. On est dans la période d'ascension de Louis-Napoléon Bonaparte. On n'est pas encore sûr qu'il deviendra Napoléon III, on essaie à tout prix de l'éviter, et donc ce personnage, métaphoriquement, va représenter personnage de Monsieur Réac, inconsistant, parodique, dans lequel les contemporains devaient reconnaître un certain nombre de traits qui permettaient de l'identifier à Louis-Napoléon Bonaparte. Là encore, jeu formel, toujours un petit peu les mêmes figures que Töpffer n'a pas utilisées, et ici, il s'agit pour le journaliste de tirer au clair l'affaire. Et donc, voilà, l'affaire est parfaitement claire. Voilà la manière dont la bande dessinée apparaissait. Elle n'est jamais parue sous forme de livre, alors qu'elle avait le format idéal, mais évidemment, le couronnement de Napoléon III ne favorisait pas la publication de ce petit ouvrage. Mais vous voyez qu'il est amusant de voir que le récit se continue, toute l'histoire se continue comme ça, toujours sur une double page, mais avec un texte qui n'a rien à voir au-dessus. C'est des formes qu'on retrouvera dans la bande dessinée beaucoup plus tard, quand elle sera dans la presse. Elle trouvera son petit coin pour se continuer sans forcément occuper le corps de la page. Et donc, les activités de Nadar en bande dessinée, le site Töpfferiana et d'autres publications l'ont montré, sont beaucoup plus importantes qu'on ne l'a longtemps cru. Il n'y a pas que Monsieur Réac. Nadar va continuer des récits en bande dessinée qui ne sont pas immortels, qui ne sont pas le cœur de son œuvre, mais qui sont de vraies narrations, à côté des pages fameuses Nadar jury, où il rencontre du salon de peinture, mais là davantage par une addition de caricatures. Il est amusant de voir que dans les journaux où il publie, sont tous des journaux amusants, journal pour rire, petit journal pour rire, on rencontre épisodiquement, dans des caricatures, le phylactère. C'est-à-dire que le phylactère apparaît plus fréquemment qu'on ne pourrait le croire. Il apparaissait d'ailleurs dans la caricature anglaise depuis très longtemps, notamment chez Rowlandson, qui en faisait un usage important. Et justement, en Angleterre, et cette histoire que je vous propose, que j'esquisse, reste assez francophone, mais évidemment, de temps en temps, je fais une petite excursion vers un autre pays, et le journal Punch apparaît en 1841, se maintient tout au long du XIXe siècle, accueille d'innombrables caricatures, accueille des suites de dessins et des choses qui ressemblent un peu à la bande dessinée, mais peut-être sous une forme moins affirmée, moins consciente que dans la bande dessinée française. Et puis, c'est l'occasion aussi, à Londres, de rencontrer la première autrice de bande dessinée, Marie Duval, une Française installée en Grande-Bretagne, mariée à un Anglais et qui va développer avec lui, mais longtemps son rôle aura été sous-estimé, va développer avec lui les histoires de Alice Loper, un personnage qui sera immensément populaire au milieu, enfin dans les années 1860-70. Des pages aux compositions très libres, à la narration un peu lâche, on est là entre la continuité séquentielle et la série de dessins, mais avec de temps en temps des compositions, des organisations de pages tout à fait remarquables. Et puis, là on est, je crois, en 1883, un auteur célèbre comme romancier, Georges Dumouriez, l'auteur du roman aimé par Raymond Queneau, Peter Ibbetson, pratique lui aussi la bande dessinée. Alors la bande dessinée muette, qui est un des grands genres qui va se développer, mais qui appartient pleinement à l'histoire de la bande dessinée, puisqu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, énormément d'auteurs ont recours pour une séquence ou parfois un album entier à la narration muette. Il s'agit ici de l'édition de luxe, comme on sait que ces conférences Léopold de Lille se placent sous le signe de la bibliophilie, de l'amour du livre. L'édition de luxe a tout à fait sa place. En Allemagne, ce sont les Fliegen de Blätter qui accueillent, là aussi, sans vraie frontière de genre, un mélange de caricatures et de séquences dessinées. Le célèbre dessinateur allemand de la période, considéré comme une des figures importantes de la bande dessinée, peut-être plus par sa postérité que par son œuvre même, c'est Wilhelm Busch, avec ses deux personnages, Max und Moritz. Max et Moritz, qui sont probablement l'origine de toutes les histoires de garnement qu'on va trouver dans les débuts de la bande dessinée américaine. En effet, plusieurs des dessinateurs des débuts de la bande dessinée américaine étaient allemands ou autrichiens d'origine, avaient grandi avec Max und Moritz, plusieurs patrons de journaux aussi, et donc on demandait ces histoires qui n'étaient pas forcément faites pour les enfants, mais qui mettaient en scène des enfants. Une autre page intéressante et très réussie de Wilhelm Busch. Alors on a des surprises. Pour les spécialistes, ce n'en sont plus aujourd'hui, mais je dois dire que pas mal de gens sont un peu interloqués et émerveillés quand ils découvrent une revue comme Simplicissimus, revue autrichienne. On est là dans les années 1880, et quand vous apercevez une page comme celle-ci de Schulz, d'un certain Schulz, Umsonst, c'est-à-dire un peu... tout ça pour ça, tout ça sans raison. Vous avez presque une vie, en tout cas une situation importante, résumée en une séquence d'images muettes. Je ne sais pas si vous parvenez à la lire à distance. Une mère élégante dans une soupente auprès d'un enfant endormi. La femme sort, descend les escaliers, sort dans les rues. Est-ce une prostituée ou est-elle seulement la maîtresse d'un homme riche? En tout cas, elle part avec lui et passe un moment supposé agréable dans le cabinet privé d'un restaurant. Et quand elle remonte chez elle, c'est la mort qui est auprès de son enfant. La page, par son graphisme charbonneux, son usage très raisonné, très précis, de la couleur, par sa capacité à être parfaitement intelligible sans texte, est une page qui émerveille beaucoup de dessinateurs d'aujourd'hui et qui, finalement, aurait pu être publiée avec une toute autre date sans qu'on en soit étonné. Et donc, quand on voit ce genre de page, ou dans la revue anglaise The Graphic, ou dans le London Illustrated News, ces pages exhumées récemment, ou cette ébauche de western, cette attaque de diligence parfaitement composée, parfaitement organisée, on se dit qu'il faut vraiment être aveugle ou particulièrement dogmatique pour continuer à maintenir l'idée qu'il n'y avait pas de bande dessinée au XIXe siècle et que tout ce qui existait, c'était une sorte de préhistoire vague. Non, on est là, et je dirais particulièrement dans le cas de la page Umsonst, on est là au cœur du médium bande dessinée. Il n'y a pas de trace de primitivité, ni dans la manière de raconter, ni dans le graphisme. Nous pourrions éventuellement, idéologiquement, moralement, avoir un regard différent. Mais la manière dont ces pages sont conçues et organisées est tout à fait proche d'un certain nombre de recherches. Alors, il y a, à côté de la presse et du livre, qui sont les deux choses que je tente d'évoquer, il y a une troisième forme qui est extrêmement importante en France tout au long du XIXe siècle et qui a été longtemps victime de préjugés et reléguée finalement dans une histoire autre que celle de la bande dessinée, une histoire absolument étrangère à la bande dessinée. C'est la tradition de l'imagerie dite d'Épinal, et notamment de l'imagerie pèlerin, de ces images que les colporteurs transportaient à travers la France, ces grandes planches. En voici une, très traditionnelle, donc l'histoire du petit chaperon rouge, avec la présence du texte et des images de format toutes identiques qui entretiennent, disons, un rapport de relative redondance par rapport au texte. On sait que il y a une énorme part de didactisme. Ici, c'est l'histoire d'une pièce de 20 francs, donc voilà, l'apparition de la monnaie, la fabrication de la monnaie. Après tout, il y a aujourd'hui de la bande dessinée de non-fiction qui se développe et de la bande dessinée de savoir. Mais les images dites d'Épinal, y compris à l'imagerie pèlerin, ne se limitent pas à ce système, à cette grille traditionnelle. Déjà, on va avoir de temps en temps des surprises, comme cette très remarquable page sur la découverte de la houille et d'où vient ce nom, où on sent que la verticalité de la page de bande dessinée est utilisée à plein et d'une certaine façon casse la lecture simplement linéaire de la page. On n'est plus là dans une grille banale, on utilise vraiment le médium. Mais quand vous trouvez la revanche de la poupée dans la même imagerie pèlerin, ce n'est pas simplement parce que les cases ont des formes biscornues, c'est parce qu'il y a vraiment l'idée d'une plasticité globale de la page, d'une manière de raconter, autant par l'organisation des vignettes que par le texte, texte qui se place de manière très libre, usage ou non d'un cadre. Toutes ces choses nous font dire que s'il ne s'agit pas forcément de bande dessinée, si on tient absolument à garder une définition dogmatique, en tout cas ça entretient de nombreuses relations avec la bande dessinée, ne serait-ce que dans la manière de faire jouer le lettrage, de se servir de la plasticité de la lettre pour le titre, chose que Little Nemo in Slumberland et bien d'autres bandes dessinées américaines feront. Il y a aussi, et pas seulement par la thématique, il y a aussi une manière de structurer véritablement sa page autour d'un jeu de différences et répétitions, de reprises, on pourrait dire de déclinaisons d'une même situation qui sont tout à fait, ce sont des choses tout à fait frappantes dans cette page du dessinateur qui signait sous le nom de Ogallo. Et Ogallo crée un gag que l'on va retrouver chez plusieurs, c'est celui du serpent à pattes. Vous le retrouverez bien sûr chez Hergé, mais chez d'autres auteurs. Et donc, voilà un type de figure qui va appartenir un peu à un vocabulaire burlesque, un vocabulaire saugrenu. On pourrait voir dans cette page du même Ogallo, La barbe ou la vie, un autre clin d'œil à Hergé, si vous vous souvenez de cette torture infligé au capitaine Haddock par l'ex-lieutenant Alan, alors dormez-vous avec la barbe au-dessus ou en dessous des couvertures, évidemment provoquant l'insomnie du malheureux capitaine. Eh bien, c'est autour de cette thématique-là, et je pense qu'Hergé n'a jamais vu cette page, mais c'est dire qu'il s'agit là déjà d'un humour graphique et surtout d'un humour véritablement séquentiel et qu'il y a une forme d'émancipation par rapport à la grille traditionnelle de la page d'Épinal, mais surtout par rapport à son caractère didactique. Là, on voit vraiment que c'est une narration humoristique qui construit toute la page. Et puis, À côté de l'imagerie pèlerin, dont l'essentiel de la production restera une production assez traditionnelle, il y a dans la fin du XIXe siècle une autre imagerie, celle de la Maison Quentin à Paris, qui dit que le format et la présence de la couleur sont à peu près les seuls points communs avec l'imagerie pèlerin, et que chez Quentin, pour les images enfantines dont on édite un recueil chaque année, un peu un recueil des traînes, eh bien, on travaille véritablement avec des auteurs, avec des dessinateurs, en laissant libre cours à leur imagination. Il ne s'agit pas ici d'expliquer l'histoire de France, d'édifier, non, il s'agit de jouer en toute liberté, avec un style graphique, avec un univers, avec un monde. Et donc, beaucoup de ces pages de l'imagerie Quentin sont tout à fait remarquables, pleines de fantaisie, de liberté, et très souvent affranchies de la pesanteur d'un texte qui prétendrait nous dire tout leur sens. On voit apparaître assez régulièrement à l'imagerie Quentin le rêve. Ici, un rêve agité, et il est amusant de trouver, dans les années 1880, l'ébauche d'une situation qui sera celle de Little Nemo, puisqu'on a, après une cavalcade effrénée à cheval, la chute, et la chute qui marque le réveil. Si vous êtes connaisseur ou amateur de Little Nemo in Slumberland, vous pouvez reconnaître là la situation de la première planche de la série de Winsor McCay. Et donc, c'est tout à fait sidérant. Ça ne signifie pas forcément que McCay a vu cette page, encore qu'on serait plutôt tenté de dire oui. Et quand vous voyez cette autre page, régulièrement reproduite depuis sa découverte, cette page du dessinateur Rip, un projet téméraire, là, on a véritablement l'impression qu'un certain usage de la page et la manière d'étendre ou de restreindre une case, de traiter la case en accordéon pour y faire entrer sa narration, que véritablement on est là 12 ans ou 15 ans ou 20 ans avant McCay dans quelque chose qui contenait déjà en germe toute cette conception de la page de bande dessinée. Et puis, allant de découverte en découverte, cherchant, lisant, on s'aperçoit que des auteurs dont la notoriété immense est associée à autre chose qu'à la bande dessinée l'ont pratiqué, y ont touché, probablement sans le savoir, étant des sortes de Monsieur Jourdain de la bande dessinée qui la pratiquait en croyant qu'il faisait tout autre chose. Et c'est le cas d'Albert Robida. Albert Robida, l'auteur bien connu du XXe siècle, de la guerre au XXe siècle, l'anticipateur, celui qui représente Paris, et qui anime pendant de longues années la revue La Caricature, qui est sa revue, et dont nous voyons que dès la couverture, on est dans une conception de la polyphonie visuelle, de l'image plurielle. Bien sûr, je ne dis pas que cette page Une journée de Tulipia est une page de bande dessinée, mais en tout cas, il s'agit d'une narration séquentielle usant du texte et de l'image sur un mode assez proche. Nous sommes encore plus frappés quand nous nous retrouvons en 1882, la confraternité littéraire, artistique, mondaine et autres, c'est une soirée à l'opéra. Et malheureusement, donc, je n'ai pas de bon document en couleur, donc je vous la montre en noir et blanc et en couleur, mais nous voyons que ces dames, à l'opéra, échangeant des remarques plus ou moins perfides les unes sur les autres, et les messieurs en dessous, usent de phylactères de manière absolument naturelle, sans s'intéresser plus que cela au procédé, puisque la semaine suivante, on n'en fera pas. On n'en fait pas tout un plat. Ce n'est pas l'essentiel, c'est un des usages, une des techniques. Robida est aussi un des premiers adaptateurs en bande dessinée et il avait, je crois, une petite dent contre Zola Et quasi à chaque parution d'un roman, vous le savez, c'était assez régulier pour les Rougon-Macquart, Robida tentait de se le payer, mais en synthétisant son roman en une page. C'est assez formidable comme exercice, c'est un peu l'esquisse de Lou Bapeau, l'ouvreur de bande dessinée potentiel. Donc, résumer un Zola en une page, avec évidemment une page très dense, on aimerait l'avoir en grand format et en parfaite qualité. Il s'agit ici d'Au bonheur des dames, où bien sûr, c'est le magasin qui accueille l'ensemble des petites séquences. Et voici cette adaptation remarquable de Paubouille. Hein, Paubouille, qui est une sorte de vie mode d'emploi de Zola, roman centré sur un immeuble, et là, la structure de l'immeuble parisien qui devient la structure de la page, l'architecture de la page, comme on le retrouve dans d'autres exemples que je n'ai pas en bonne résolution, mais qui nous montrent ici, sur une double page, l'organisation tout à fait extravagante et décorative d'une séquence d'images. Ici aussi, donc, bon, des documents qui mériteraient d'être retrouvés en bon format, en parfaite définition, pour sentir vraiment à quel point ils flirtent avec une certaine idée du médium bande dessinée. Tout comme Carandache, Emmanuel Poiré de son vrai nom, va rencontrer la bande dessinée de plusieurs façons. Alors lui, qui est dessinateur qui a d'énormes possibilités, qui part dans tous les genres, qui anime de multiples publications, qui politiquement ne fera pas un véritable ami du capitaine Dreyfus, on peut même dire qu'il part assez fortement de l'autre côté, est un inventeur formel. Il adore les séquences très esquissées, les dessins quasi rébus qu'il propose souvent sous forme muette. Et donc, il faut prendre un certain temps pour interpréter des histoires qui ne sont pas forcément toujours d'un goût exquis. Nous avons ici la lettre de Napoléon à Murat, donc un récit de bataille entièrement suggéré, avec des petits personnages silhouettes, tout comme Granville avait lui aussi créé des petits bonshommes à partir de notes de musique. Il y a eu dans la presse les lundis de Carandache, et donc ici la sécurité en chemin de fer, un thème toujours d'actualité, un thème éternel, et c'était rassemblé dans des albums, et donc de petits albums, apparition relativement régulière, les lundis de Carandache. Bon, vous pourriez me dire, tout cela continue à être vraiment dans les marges de la bande dessinée. Mais quand je vais vous montrer cette page parue en 1888, alors là, on n'est plus du tout dans la proto-bande dessinée ou dans les marges de la bande dessinée, on est dans une page qui dit ce qu'elle est et qui dit ce qu'elle fait, comment on fait un chef-d'œuvre. Cette page est un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée, et elle est à plusieurs titres. Elle est d'abord par la parfaite conception d'une narration visuelle. Je ne résiste pas au plaisir, maintenant qu'on a vu la page comme elle est parue, de vous montrer les images une à une. La toile vierge, le peintre qui pourrait ressembler un peu à Monet, mais qui ressemble pas mal à Carandache lui-même à certains moments de sa vie, petit chien, et le spectateur. Voici que là, nous sommes très loin dans le XXe siècle. C'est une technique quand même assez révolutionnaire, assez neuve. Confrontation assez physique avec la toile, évidemment, qui a un peu éclaboussé, non pas le fond jaune qui reste intact, mais tous les personnages environnants, le tachisme, le body art, et là, une certaine satisfaction. Et comment se payer en même temps la tête de l'impressionnisme, de Monet, d'Impression Soleil Levant, mais imaginait-il qu'il était en train de jouer Pollock tout autant que Monet. Et il signe Carandache, ce qui modifie encore le niveau de la parodie. Mais si je vous dis que cette page est parue en décembre 1888 dans le Figaro, on se dit que le Figaro de 2019 pourrait accueillir la bande dessinée de manière aussi novatrice et qu'on en serait véritablement heureux. C'est une page parfaite parce que c'est une page dont non seulement chaque image a sa valeur, mais dont la narration est absolument intelligible et dont l'ensemble est admirablement composé. Inutile d'insister évidemment sur cette constance du fond, sur cette sorte de ligne claire, d'élimination de tous les accessoires inutiles pour obtenir une parfaite clarté à l'intérieur de l'audace. Et puis bon, Carandache, on le sait aujourd'hui, est l'inventeur potentiel d'une autre forme, avec cette lettre un peu plus tardive au directeur du Figaro, 1894. « Cher monsieur et ami, j'ai une affaire à vous proposer qui pourrait, à mon avis, intéresser beaucoup le Figaro, et voici ce dont il s'agit. Tout le monde a lu et lit des romans, surtout lorsque les dix romans sont signés des noms connus et aimés du public, et vous n'ignorez pas que lorsqu'un roman réussit, il devient une affaire fructueuse et pour l'auteur et pour l'éditeur. » Cette circonstance en ces jours de prix littéraire. « Eh bien, moi, j'ai l'idée d'y apporter une innovation que je crois de nature à intéresser vivement le public, et c'est, mais tout simplement, de créer un genre nouveau, le roman dessiné. En un mot, cela n'a jamais été fait. Quant à la forme, à la figure du livre, je vois un volume qui aura l'aspect extérieur d'un roman de Zola, de Daudet, mais à l'intérieur, pas une ligne de texte. Tout sera exprimé par les dessins en 360 pages environ. » Et dans sa lettre, dont je ne vous cite qu'un extrait, Carandache indique non seulement le format du livre, mais son prix aligné sur celui des romans. Et donc, si le directeur du Figaro, en 1894, avait été plus clairvoyant, le roman graphique aurait une très longue histoire. Mais cette histoire, maestro, Carandache a fait plus que la pressentir. Il l'a en grande partie dessinée, puis elle a été disséminée dans les successions. Des parties manquent toujours, mais un volume avait été édité par le Centre de la bande dessinée d'Angoulême et par les bons soins de Thierry Grunstein il y a un certain nombre d'années. Donc, là, une pensée, un homme comme Carandache qui travaille manifestement surtout pour la presse, malgré les petits recueils des lundis de Carandache, qui imagine un genre qui est un genre livresque. Ce sera le cas aussi chez Steinlen, obsédé par les chats, créateur aux multiples talents, qui va publier ce recueil muet, magnifique, chez Flammarion, des chats. Alors c'est une anthologie de pages, mais après tout, beaucoup de bandes dessinées sont des anthologies de pages, sur un même thème, des variations, toujours muettes, toujours intelligibles, à condition qu'on prenne le temps de les lire et pas seulement de les regarder, sur des situations. Donc en page de gauche, nous avons l'histoire navrante d'un chat et d'un petit cochon d'Inde. Petit cochon d'Inde finit enfermé dans une boîte, et l'autre histoire met en scène une pelote de laine, et donc ces fils, ces lignes qui sont en même temps ceux du dessin vont paralyser le pauvre animal. Je vous disais au début de cette conférence que les auteurs de bande dessinée d'aujourd'hui se reconnaissent assez facilement dans ces formes très anciennes, et ça a été le cas au festival Bédéphile de Lausanne, il y a un peu plus d'un an, par une série d'hommages de dessinateurs contemporains, d'hommages à ces chats muets, à cette manière de raconter. Nous avons David B., Catherine Meurice à droite, et Herr Zele, le créateur de Cowboy Hank, qui tous les trois se sont essayés à la reprise des chats de Steinlen, qui a fait lui-même d'autres séries comme celle des flagrants délits, où de manière muette ou quasi muette, puisque le titre donne toujours une indication, une petite histoire est racontée en plusieurs images. Tout cela, nous sommes dans les années 1880, tout début des années 1890. Et donc, chaque fois, une petite situation explorée par les pures ressources du dessin séquentiel est toujours un malheureux personnage qui se fait arrêter très injustement. Plus connu et plus identifié à la bande dessinée, et parfois synonyme pour certains de bande dessinée du 19e siècle en France, c'est Christophe, hein, le professeur Georges Colomb, professeur de sciences naturelles, spécialiste de botanique, auteur d'un manuel de leçons de choses qui utilise les ressources du texte et de l'image. Mais Monsieur Colomb ou Monsieur Christophe était, depuis sa jeunesse, un admirateur des œuvres de Töpffer qui avaient été rééditées pieusement par Garnier à partir de 1861. Tous les romans graphiques de Töpffer avaient été redessinés très fidèlement par son fils François Töpffer et réédités très régulièrement. Et donc, Christophe le désigne comme son maître, même si le style graphique de Christophe est très différent. Ses histoires vont paraître pendant des années dans la revue Le Petit Français Illustré. Elles paraissent de manière assez désordonnée, avec une alternance entre le sapeur Camembert, la famille Fenouillard, l'idée fixe du savant Cosinus, et les malices de Plic et Ploc. Les histoires sont un peu démembrées, elles sont en noir et blanc, en format vertical. Et Christophe reprend ses personnages, réécrit, peaufine, et va sortir le très célèbre album de la famille Fenouillard, qui est à juste titre resté un classique, même si on peut le considérer par certains traits comme un peu régressif par rapport à Töpffer. Rigidité du format, rigidité du texte composé typographiquement et surtout importance majeure du texte pour la compréhension de l'histoire. On est beaucoup plus dépendant du texte, notamment pour la drôlerie. Töpffer est drôle par les attitudes de ses personnages, par les expressions de visage. Chez Christophe, on est drôle surtout quand on lit le texte. Je vous lis, chose que j'avais déjà commentée dans un autre texte, je vous lis les deux dernières vignettes. « Mais Monsieur Fenouillard est un homme astucieux. Il a découvert sous la forme d'une chaise la solution du problème. « Prends bien garde, Agénor, s'écrie Madame Fenouillard, inquiète. Si tu tombais, tu abîmerais ta redingote neuve. » Passons à la dernière image. Les dimensions du dessin précédent, nous ayant forcé de couper en deux M. Fenouillard, cette figure est simplement destinée à montrer la suite de l'excellent négociant aux personnes d'une intelligence bornée et d'une imagination faible. On est là dans une forme d'humour qui ne fonctionne pas si on ne lit pas le texte. On voit juste des coupages, somme toute assez classiques, mais la légende avec cet humour un peu 1900, est tout à fait indispensable à la drôlerie. Et pourtant, il y a de l'invention chez Christophe, et notamment dans une séquence comme celle-ci, avec ses vues en plongée absolue, qui sont assez remarquables. Et puis, il y a autour de Christophe et de sa capacité à métamorphoser ses histoires, à les faire exister dans plusieurs supports, il y a une intelligence technique, et c'est une page du Petit Français Illustré qui explique, bien avant la bande dessinée américaine, le procédé de reproduction de la couleur, procédé qui trouve en réalité, je ne le dis pas par chauvinisme, mais qui trouve son origine en France avant d'être exporté aux États-Unis, où il sera exploité beaucoup plus largement. Et donc il va y avoir un usage des histoires de Christophe dans la presse, puis des albums luxueux, chez Armand Collin, en couleur et horizontaux, on retrouve le système töpfferien, et une sorte d'édition de poche, d'édition populaire, en noir et blanc, avec un remontage, avec seulement deux images par page. Et donc, il y avait possibilité pour trois publics d'être atteints. Et ça explique aussi l'immense popularité et la longue survie de l'œuvre de Christophe. C'est vraiment un auteur extrêmement plastique, extrêmement soucieux des conditions de réception de ses histoires. Ici, un extrait de Fenouillard, de Camembert, qu'on voit plus rarement en couleur. Et donc, ces dialogues, ces jeux de langage qui sont très, très caractéristiques de l'art de Christophe, même si, quand on regarde son dessin, quand on agrandit une case, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de finesse et une certaine élégance dans la drôlerie, même si l'humour est quelque peu daté. Et revoici les malices de Plickepleck en couleur. Dans la presse de la fin du 19e, et qui n'est pas une presse spécialement destinée aux enfants, dans la presse générale ou la presse satirique, on va trouver de très nombreux exemples de bandes dessinées. Bon, celle-ci va jusqu'à censurer sa dernière case. Il s'agit d'un journal immoral, donc le vaste espace du journal permet d'accueillir et de dissimuler des actes plus ou moins répréhensibles. Dans d'autres cas, on s'amuse de façon plus graphique à montrer, comme Faria, les effets d'une valse. C'est un peu Jacques Brel qui est déjà là. Dans d'autres cas, et par exemple avec le dessinateur Draner, on va jouer avec l'idée d'ombre chinoise, de simplification à l'extrême du dessin. Ce n'est pas la ligne claire, mais c'est une autre façon de l'approcher. Et c'est en même temps une manière de faire entrer ce qui obsède beaucoup la bande dessinée de la fin du siècle, faire entrer les inventions, et ici faire entrer le vélo comme nouvel élément moteur. Mais ce qui va jouer un rôle beaucoup plus important, c'est la saisie des inventions technologiques et particulièrement du téléphone et du phonographe qui seront pour la bande dessinée, qui se confrontent à la question de la parole, comment capturer la parole vive, ce sera tout à fait essentiel. Donc ici, une page assez complexe de Draner, mais qui véritablement met en scène la parole. Alors il nous manque la petite flèche qui transformerait toutes ces bulles en bulles au sens moderne du terme, mais en même temps, c'est bien de cela qu'il s'agit. Faire entrer le son, faire coïncider, finalement, rendre la bande dessinée parlante et non pas simplement commentée. Une autre solution tout à fait remarquable dans cette page de Guillaume, les perfidies du téléphone, et vous voyez là aussi les paroles qui sortent directement de l'appareil, mais qui ont gardé une colonne réservée. Après tout, il s'agit d'une solution technique pas plus sotte qu'une autre et qui aurait pu connaître un assez grand avenir, une sorte de sous-titrage de la bande dessinée. On quitte, et je vais accélérer un rien le rythme, on quitte la France pour passer aux États-Unis à cette seconde naissance qui est new-yorkaise et qui, là, est une affaire de presse. Autant pour la bande dessinée européenne et particulièrement la bande dessinée francophone, on est vraiment dans une dialectique permanente du livre et du journal, autant aux États-Unis, ce sont des hommes de presse, Monsieur Pulitzer d'abord, et bientôt Monsieur Hearst, qui, pris dans une rivalité considérable, vont s'arracher des dessinateurs pour conquérir des lecteurs. On les voit ici représentés par une caricature de l'époque qui fait écho directement au fameux Yellow Kid qu'ils se seront disputés. Comment cette presse se développe-t-elle? Eh bien, elle se développe d'abord à partir d'une technologie. Cette technologie, c'est celle du Ben Day, mise au point par Benjamin Day Jr., qui va donner la possibilité de reproduire les grisés, puis les couleurs, de manière simple dans la presse. Et donc, les dessinateurs vont devoir jouer avec cette technique. Dans un premier temps, le projet de ces hommes de presse, avec le public d'immigrants, pas forcément très lettrés et donc très sensibles à l'image, le projet était assez largement éducatif et il s'agissait de faire partager les trésors de l'histoire de la peinture. Il se trouve que la technologie du Ben Day n'aboutissait qu'à des résultats assez piteux pour la reproduction de tableaux. Par contre, quand un dessinateur s'emparait de cette technique et travaillait pour la technique et créait ses couleurs en fonction, on avait d'excellents résultats. Et c'est notamment une des choses qui va faire le succès de Richard Felton Rothko, le créateur du fameux Yellow Kid, mais d'abord de Hogan's Alley, une série qui met en scène un certain nombre de gamins des quartiers pauvres de New York, dont l'un qui va s'imposer avec sa chemise de nuit jaune couverte d'inscriptions, l'un qui va s'imposer comme le héros. Nous sommes ici dans ces grandes images complexes et chargées d'inscriptions, ces images à la lecture difficile et qui doivent s'interpréter lentement. Nous sommes assez éloignés de l'idée moderne de la bande dessinée, plus éloignés que dans beaucoup des pages que nous avons vues. Mais il se trouve que le personnage va devenir extrêmement populaire, il va avoir son propre petit magazine, ses produits dérivés, et il se trouve aussi que rencontrant le phonographe, il va, en une page de 1896 très célèbre, d'abord quitter la grande image pour travailler séquentiellement, même si les cases ne sont pas ici divisées, mais aussi accueillir la parole. Alors c'est amusant, et Thierry Smolderen, qui s'est beaucoup intéressé à cette page, montre toute l'ironie d'Aoudko, puisqu'il s'agit de montrer une parole artificielle qui sort de la machine, ce n'est pas le Yellow Kid qui parle, c'est le phonographe, et puis, avec stupeur, il découvre à la fin de la page qu'il ne s'agit pas d'une machine, comment une machine pourrait-elle reproduire la voix, mais d'un perroquet. Et tous les perroquets de l'histoire de la bande dessinée sont peut-être des échos de celui-là et de cette idée de la parole mécanique. Il y aurait probablement quelque chose à creuser sur le lien entre la bulle de parole et le perroquet. Peut-être que tous les personnages de bande dessinée sont issus de cette page. Mais ce qui est amusant pour nous, c'est que le procédé n'est pas du tout adopté instantanément par Aoudko. Il ne se dit pas « Eureka, j'ai réinventé la bande dessinée ». Il use de cette forme et puis il revient à une grande image pour une visite au Louvre du Yellow Kid. Et puis il réalise une séquence divisée, mais où les phylactères n'ont pas plus d'importance que ça, se mêle à d'autres formes d'écriture, puisqu'il y a toujours du texte sur la chemise de nuit du personnage. Et ce n'est qu'au moment où d'autres dessinateurs vraiment s'intéressent à ce procédé et commencent à le reprendre, que le même Aoudko va créer la série de Buster Brown. Et là, dans Buster Brown, véritablement, le phylactère et le découpage correspond à celui qu'on va voir se développer. C'est comme si j'étais un des chemins de l'évolution. Si on racontait cette histoire sur un mode lamarckien ou darwinien, on pourrait dire qu'une des branches de l'évolution brusquement s'est imposée, qu'une forme de popularité s'est accrochée à ce système. Ce qui est très intéressant aussi, j'espère, c'est que Buster Brown arrive en France très tôt. Il va arriver en France, non pas dans la presse, mais sous forme de petits albums, dès 1903-1904, et évidemment interloquer beaucoup des auteurs de l'époque dont le système narratif est tout à fait différent. Vous imaginez que le lecteur du Sapeur Camembert tombant sur cette page de Buster Brown est très intrigué, pas seulement par le côté évidemment manifestement transgenre et cuir de cette page, il s'agit de transformations vestimentaires et capillaires qui montrent la modernité, mais pas seulement ça, mais parce que c'est une autre façon de raconter, et la France y résistera assez longtemps. Alors qu'aux États-Unis, ça va être l'émerveillement dans les journaux du dimanche, les Sunday Pages, qui ont un très grand supplément, où les pages peuvent être complexes et riches, et donc là, on aura Happy Hooligan, on aura le Captain and Kids, les Katzenjammer Kids et beaucoup d'autres séries. La série très poétique de Lionel Feininger, qui deviendra un très célèbre peintre cubiste, mais qui continuera finalement un art qui était celui de ses premières bandes dessinées, les Kinder Kids et d'autres. Et puis, à la même époque, je ne l'évoque que très brièvement parce que sinon on partirait dans une autre direction, le génie absolu du temps, Winsor McCay. Winsor McCay, qui lui semble né pour le médium, n'a pas de culture littéraire particulière, n'a pas de culture picturale particulière, a été un dessinateur forain avant de mettre en effervescence le rêve et le cauchemar, parfois pour les adultes, Dreams of the Realm It Fend, et qui sont en noir et blanc généralement, mais qui peuvent être en couleur, donc des cauchemars assez terribles, pas du tout destinés à un public enfantin, mais aussi des séries plus simples, dont l'une, Petit Samy éternu. Chaque page raconte un éternuement spectaculaire et ses conséquences, et ce livre est donc publié à peu près au même moment que Buster Brown, enfin juste après. Petit Sammy éternue, Little Sammy sneeze, dont voici une des pages. On a là quelque chose de tout à fait étonnant, parce que c'est très isolé. Il y a eu ce livre, il n'y a pas eu de livres du même type qui ont suivi, après les Buster Brown qui ont été exploités quelques années. Cette veine s'est tarie, on ne sait trop pourquoi. Mackay, lui, va développer somptueusement les possibilités de la presse et du grand format avec Little Nemo in Slumberland. Mais ce qui est moins connu, c'est que non seulement dans l'édition américaine du Herald Tribune, on pouvait découvrir du Little Nemo et d'autres bandes dessinées à Paris et dans d'autres villes européennes au début du siècle, mais qu'il y a eu aussi des adaptations françaises qui sont parues non sans altération. Alors, c'est intéressant à observer. Vous voyez que, par exemple, le bandeau titre fait absolument partie de l'organisation de la page. Il est toujours dessiné et toujours déjà narratif. Dans la version française, on a séparé le dessin du titre. On a composé les légendes sur un mode beaucoup plus rigide et continu. Et on a sorti les phylactères. Vous pouvez le voir pour la dernière ligne d'image, les phylactères ont été retirés. Comme si ce système n'arrivait en France que par accident, qu'on avait du mal à l'accueillir vraiment à cette époque-là. Alors il va y avoir, dans le petit journal illustré de la jeunesse, des pages qui imitent et reprennent le procédé du rêve. Il va même y avoir, de manière furtive, par Blonval, une bande dessinée avec bulles, et puis ça retombe. Ça s'arrête à peu près tout de suite. Il n'empêche que dans le même journal illustré de la jeunesse, on s'amuse avec la page, avec l'organisation tabulaire de la page, avec le format des vignettes. Vous le voyez ici, une fois verticalement, une fois horizontalement. Un autre dessinateur tout à fait remarquable s'amuse à changer de style à chaque page, c'est Malatesta. Alors là, on pourrait croire que la bande dessinée a bien été inventée au Moyen-Âge, mais c'est une publication de la fin des années 1890 ou début 1900, et donc bande dessinée gravée, etc. Quelques mots de Benjamin Rabier. Benjamin Rabier, qu'on connaît comme un immense illustrateur, auteur de livres jeunesse célèbres, mais Benjamin Rabier, qui, par-delà la vache qui rit et bien d'autres choses, pratique vraiment une forme très très proche de la bande dessinée, et parfois d'une bande dessinée très inventive, par sa manière de construire ses vignettes presque identiques, et surtout de composer des pages à partir d'une contrainte formelle très forte. Donc ici, la mouche. La mouche est aussi un bel objet en bande dessinée. Lewis Trondheim consacrera un album entier aux aventures d'une mouche. Avait-il vu les pages de Rabier? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est très très près. Ici, les aventures d'un cigare. Et là, celle d'une paire de jambes. Bon, ce sont quand même des formes qui parlent encore aux amateurs d'aujourd'hui et qui nous disent qu'un auteur qui n'avait pas conscience de pratiquer la bande dessinée pouvait le faire, jouant évidemment aussi, se servant aussi admirablement de la verticalité de la page, comment faire coïncider une narration et la descente du regard, comment se servir pour faire entrer, par exemple, un serpent, comment se servir de l'horizontalité pure, comment se passer de cases tout en restant séquentiel et narratif. Beaucoup de bandes dessinées, particulièrement d'ailleurs de bandes dessinées réalisées par des dessinatrices ces dernières années, ont cassé le moule rigide des bords de cases. C'est assez amusant de voir cet effet. Et donc oui, évidemment, Gédéon, chez Rabier, mais aussi cet autre livre, Tintin Lutin, dont Hergé disait qu'il ne se souvenait pas tout à fait s'il l'avait lu, étant enfant, mais tout de même, le petit Tintin Lutin semble être tombé sous ses yeux au moins deux ou trois fois et nous donne l'occasion rare, tout à fait privilégiée, de voir monsieur et madame Tintin. Les parents de Tintin sont là, présents pour une fois, peut-être en oubliant Rabier, fallait-il oublier papa et maman. Et donc, ici, Luc Le Guay, auteur extrêmement peu connu et longtemps parfaitement inconnu de moi, je vous rassure, mais inventeur lui aussi de double narration, narration horizontale, narration verticale, constructeur d'une page extravagante qui se termine par une mise en abîme et un regard du personnage sur le kiosque où toute la page est représentée et où elle-même l'est. Alors à côté de cela, nos amis les pieds nickelés, bien connus, vont adopter une forme beaucoup plus classique et beaucoup plus modeste et conservatrice que leur anarchisme pourrait le laisser penser. On pourrait s'attendre à ce que ce soit aussi l'invention d'une nouvelle forme de récit. Non, pas vraiment. Quand vous lisez, et quelle que soit la période, les aventures des pieds nickelés, vous sentez la domination écrasante du texte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de drôlerie dans l'aventure, mais qu'il n'y a pas véritablement de confiance dans le pouvoir narratif de l'image, cette confiance que nous avons aperçue chez Carandache, chez Steinlen, chez Rabier. Et à côté des pieds nickelés, version un peu populaire et canaille, il y aura bande dessinée plus chic de messieurs Pinchon et Comery, même si c'est une dame, Madame Rivière, qui a écrit les premiers épisodes de Bécassine. Rapidement, c'est l'éditeur qui s'en charge. Et donc, dans la semaine de Suzette, nous allons trouver ce personnage à la longévité extraordinaire qui imposera peut-être, plus que d'autres, une certaine idée de la bande dessinée à la française. Une bande dessinée dont une lecture sociale peut bien sûr être faite, et on voit bien qu'on s'adresse là à des petites filles de la bourgeoisie en leur donnant la conscience de ce qui les sépare de la petite bonne, cette pauvre Anaïque Labornée. Mais il y a aussi par-delà ce caractère idéologique, cette confiance fondamentale dans un mécanisme qui reste davantage celui du récit illustré que celui de la bande dessinée. Une narration qui ne fonctionnerait pas sans le texte, même si le dessin et les pages sont parfois extrêmement élégants et qu'il ne faut pas non plus considérer avec dédain Bécassine. Donc, les albums n'arrivent qu'assez tard. Hein, c'est d'abord un objet de presse, mais c'est à travers les albums que Bécassine va se construire une mémoire et passer de génération en génération. Il y a aussi ce mécanisme de la série, la construction du personnage. C'est probablement un des premiers personnages français à avoir une vraie longévité, puisqu'elle se décline d'album en album, de page en page, alors que ce que nous avons vu pendant l'essentiel de cette conférence, c'est des bandes dessinées paginales. Ce sont des séquences destinées à fonctionner comme un ensemble, ce qui favorise d'ailleurs probablement les jeux formels qui y abondent. D'autres magazines de l'époque sont largement destinés à un public ciblé. Autant nous avions une presse généraliste pendant le 19e siècle, autant nous avons en ce début du 20e siècle des revues orientées garçons, des revues orientées filles, et surtout une séparation qui est en train de s'établir et qui sera probablement très dommageable entre des publications destinées à la jeunesse, à la petite enfance, et des publications sérieuses et destinées aux adultes. Il est amusant de voir, en feuilletant ces revues, comment les mises en page s'y inventent, abondance de textes, mais en même temps usage parfois assez libre et heureux de la composition de la page, ou plutôt de la double page. Ces œuvres que nous voyons là n'ont jamais été, à ma connaissance, reprises en album. Ce sont des publications éphémères. Donc l'espiègle Lily va être un des personnages connus du temps, et les revues se multiplient à cette époque-là, et conquiert véritablement un public enfantin très considérable, l'illustré, Cri-Cri, etc. Je vous épargne, vous la trouverez dans le petit livre, la longue citation du reste assez connue de Jean-Paul Sartre dans Les mots, l'enfant émerveillé qui va délaisser les valeurs de sa famille et la littérature traditionnelle, la littérature sérieuse qu'il lisait pour s'adonner à celle de Cricri, de l'épatant, des trois Boy Scouts, etc. Et je termine par quelques images sur la bande dessinée au cœur de la Première Guerre mondiale, où tous les personnages, bourgeois, domestiques ou canailles, vont se retrouver dans un grand élan patriotique. Nous aurons, il ne faudra pas trop s'y attarder, pendant la Seconde Guerre mondiale, des personnages mobilisés de manière encore plus douteuse et des dessinateurs parfois talentueux au service de la pire propagande. En tout cas, Bécassine est mobilisé joyeusement, mais même les pieds nickelés s'en vont en guerre. Et comme nous le savons, depuis le début de la guerre, ce ne sont que victoires. Pour la bande dessinée, nous verrons ce qui advient pendant le siècle suivant et si nous volons là aussi de victoire en victoire. Merci de votre patience et bonne soirée.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.